William Asanvo, bonjour.
Bonjour.
Récemment, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, dans une interview, a pointé du doigt certains pays de la CEDEAO comme étant à la base, en tout cas, des actions terroristes notées dans son pays. Et des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria sont cités. Comment vous appréciez cette sortie donc, du chef de la transition nigérienne?
Oui, cette sortie, je pense, s'inscrit dans un climat déjà particulier qui caractérise les relations entre ces deux groupes de pays, donc les pays de l'AES, l'Alliance des pays des États du Sahel, et certains pays de la CEDEAO et la CEDEAO même plus largement. Et ça part déjà de la posture et de la confrontation qu'il y a entre les pays de ce bloc du Sahel et de la CEDEAO autour des coups d'État survenus dans ces trois pays et des transitions qui en ont suivi. Également, donc, des relations tendues entre ces États et la CEDEAO autour des conditions à remplir pour pouvoir encadrer ces transitions, y mettre fin et pouvoir organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, au cours de cette période et dans le cadre de ces relations tendues, il y a eu des accusations portées soit par les autorités de la transition au Mali, soit par les autorités de la transition au Burkina et maintenant au Niger. Il faut bien peut-être rappeler qu'on est là véritablement dans une confrontation entre ces deux blocs. Et la sortie de M. Tchiani s'inscrit dans ce contexte-là.
Pour vous, cette manière aujourd'hui d'évoluer dans ces relations entre ces deux blocs est donc symptomatique de cette relation qui commence à être exécrable. Est-ce qu'on doit craindre le pire avec ces positions?
Oui, on est effectivement dans une période de fragmentation au niveau régional. Fragmentation qui a été consacrée, on va dire, par l'annonce de la sortie donc des pays de l'Alliance du Sahel, de la CEDEAO. Annonce qui a été faite en fin janvier 2024. Donc l'annonce qui a été faite par ces pays de leur sortie de la CEDEAO. Et donc, c'est véritablement dans ce contexte-là qu'on se trouve avec effectivement des confrontations par annonce interposées, par communiqué, par prise de position, par accusation de déstabilisation ou de tentative de déstabilisation. On est clairement dans ce contexte et rien ne dit que dans un futur proche, ou dans le court terme ou même dans le moyen terme, que la région va sortir de cette confrontation-là. Il ne va faire qu'accentuer la fragmentation au niveau régional. Et ça va être véritablement un problème par rapport aux défis du point de vue sécuritaire auxquels la région ouest africaine est confrontée, aussi bien les pays du Sahel que les pays qui leur sont frontaliers, donc ce qu'on qualifie généralement les pays côtiers, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria par exemple, et plus largement l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une problématique sécuritaire qui se pose à l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, compte tenu des conséquences et de l'impact que la crise dans un pays, dans une région, peut avoir sur les pays voisins, ici la région dans son ensemble. Et ce n'est véritablement pas un signe positif pour la réduction du risque sécuritaire. Ça va être un élément qui va contribuer à cristalliser davantage l'insécurité, à permettre à cette insécurité de continuer à se développer et de persister et véritablement de poser une menace au-delà de la question sécuritaire, mais aussi du point de vue politique et du point de vue socio-économique.
Alors, pour revenir donc à ces accusations répétées, quel crédit accorder donc à ces accusations-là?
Alors, il faut bien peut-être rappeler le fait que la CEDEAO, déjà en tant qu'institution, mais aussi plusieurs pays, membres encore de la CEDEAO, ont exprimé leur opposition formelle aux coups d'État qui sont survenus dans ces trois pays. Donc, clairement, de ce point de vue, par rapport à ces régimes-là, ils considèrent les États qui se sont opposés, qui ont condamné ces prises de pouvoir anticonstitutionnelles comme des ennemis. Et donc, ils entretiennent aussi, dans une certaine mesure, cette inimitié-là, en avançant de manière assez régulière des projets déjoués de tentatives de coup d'État, de tentatives de déstabilisation, avec généralement les preuves qui sont avancées n'ont pour l'instant pas convaincu la plupart des analystes et observateurs, aussi bien au Burkina qu'au Niger. Et les éléments qui sont avancés dans la rhétorique, les éléments de preuves qui sont avancés contre ces pays qui formeraient des terroristes, qui soutiendraient les terroristes, qui financeraient les terroristes, ça manque beaucoup de crédibilité. Ça manque beaucoup de crédibilité. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que c'est une volonté pour ces pays-là de pouvoir accroître leur légitimité, renforcer le soutien populaire qu'ils ont et qui vient un peu compenser l'absence de légitimité ou de légalité d'un point de vue constitutionnel.
Alors, vous soulignez les conséquences sécuritaires, mais au niveau même de la cohabitation de ces citoyens de ces différents pays, hein, il y a une certaine interpénétration. Alors, est-ce que en termes de conséquences, il ne faut pas craindre une certaine méfiance mutuelle?
C'est effectivement un risque. C'est effectivement un risque que ces brouilles ou ces tensions diplomatiques ou interétatiques progressivement imprègnent les relations entre les populations de ces différents pays-là. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'en est pas encore là, mais c'est un risque qui est réel.
William Assanvo, je vous remercie.
Je vous en prie, M. Koumé.